Vous êtes avec SBS French. Retrouvez les rubriques sur sbs.com.au/french.
SBS, a world of difference. You're with SBS French, on mobile, online and on radio.
Vous êtes avec SBS French sur votre smartphone, en ligne et à la radio.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Radio SBS. Avec vous aujourd'hui Grégory Pless pour vous accompagner pendant une heure d'émission en français. Comme tous les jeudis, on va faire le point sur l'actualité économique de la semaine en Australie. On ira aussi voir quelles sont les dernières nouveautés musicales en France. Et puis on va discuter aussi avec l'Alliance française de Sydney et faire le point sur les événements qu'elle organise au cours des semaines à venir. Mais tout de suite, c'est l'heure du journal. C'est parti! Et les principales actualités de ce jeudi 22 octobre 2020. Hommage national en France hier pour l'enseignant Samuel Paty, décapité vendredi dernier pour avoir montré en classe des caricatures de Mahomet. À Hong Kong, la compagnie aérienne Cathay Pacific est au bord du gouffre. Elle annonce le licenciement de plus de 9000 employés. Et le pape François, dans un nouveau documentaire, se dit favorable aux unions civiles pour les personnes de même sexe. Vous êtes le visage de la République. C'est ce qu'a déclaré Emmanuel Macron hier soir lors de l'hommage national rendu à Samuel Paty. Cet enseignant décapité la semaine dernière en région parisienne par un terroriste qui lui reprochait d'avoir montré en classe des caricatures de Mahomet. Ses proches, ses élèves, ses collègues enseignants ainsi que l'ensemble de la classe politique ont assisté à cet hommage qui se déroulait dans la cour de la Sorbonne. Écoutez le reportage d'Anthony Latier pour Radio France Internationale.
Un morceau de U2 retentit dans la cour de la Sorbonne alors qu'arrive le cercueil porté par la garde républicaine. Premier moment d'un hommage national singulier à un homme d'abord, mais aussi à une profession et aux valeurs qu'elle transmet. Ses anciens collègues citent Jean Jaurès.
Vous tenez en vos mains l'intelligence et l'âme des enfants. Vous êtes responsable de la patrie.
Avant qu'Emmanuel Macron ne vante un professeur passionné et humble, victime de l'ignorance et de la barbarie.
Samuel Paty fut la victime de la conspiration funeste, de la bêtise, du mensonge, de l'amalgame, de la haine de l'autre, de la haine de ce que profondément, existentiellement, nous sommes.
Solennel et combatif, le président français fait ensuite cette promesse.
Nous continuerons ce combat pour la liberté et pour la raison dont vous êtes désormais le visage, parce que nous vous le devons. Parce qu'en France, professeur, les lumières ne s'éteignent jamais.
À l'extérieur, la foule applaudit. À l'intérieur, 400 personnes se recueillent en silence jusqu'au départ du cercueil sur un air de Mozart.
Et pendant ce temps-là, les recherches pour établir la chronologie exacte des événements de vendredi dernier et remonter jusqu'à des complices, elles continuent d'avancer. 7 personnes ont ainsi été présentées hier devant un juge antiterroriste dans le cadre d'une information judiciaire. Et parmi ces 7 personnes, on trouve 2 mineurs, des collégiens qui ont donné des renseignements sur l'enseignant au tueur contre de l'argent. On écoute les explications de Laura Martel pour RFI.
Selon le procureur, le terroriste disposait du nom et de l'adresse du collège ainsi que du patronyme du professeur, mais n'avait pas les moyens de l'identifier formellement et c'est l'intervention des collégiens qui lui a permis de le faire. Il est environ 14h vendredi, relate le procureur, quand l'assaillant propose à un premier collégien 300 à 350 euros pour désigner l'enseignant. Le jeune accepte, reçoit une partie de la somme et patiente avec le tueur. Vers 16h, l'adolescent propose à d'autres jeunes de s'associer à sa mission. Certains partent, d'autres restent. Le collégien chien et un camarade donnent alors une description physique de Samuel Paty à l'assaillant, alors même que celui-ci leur a indiqué son intention de filmer le professeur, de l'obliger à demander pardon pour la caricature du prophète, de l'humilier, de le frapper, souligne le procureur. Ces deux collégiens et le terroriste se mettent alors à l'écart, apparemment pour éviter la vidéosurveillance et une patrouille de police. Vers 17h, plusieurs adolescents en lien avec les premiers désignent à l'assaillant Samuel Paty au moment où il sort du collège. Le terroriste remet alors le reste de l'argent au premier collégien avant de se lancer à la poursuite de sa victime, conclut le procureur. Le parquet pourrait donc requérir la mise en examen des deux collégiens déférés pour complicité d'assassinat terroriste, un chef pour lequel la peine maximale encourue est la perpétuité, ramenée à un maximum de 20 ans pour les mineurs de moins de 16 ans.
Le coronavirus en Australie, 7 nouveaux cas aujourd'hui en Nouvelle-Galles du Sud et dans le Victoria, 5 nouveaux cas recensés ces 24 dernières heures. La moyenne dans cet état du nombre de cas sur 14 jours continue donc de baisser. Elle est désormais à 6,1 pour la ville de Melbourne. Mais l'apparition d'un nouveau foyer d'épidémie dans le nord de la ville pourrait remettre en cause la levée de certaines restrictions prévues ce week-end. Pour sa part, Daniel Andrews rappelle qu'il est essentiel de se faire tester, même quand les symptômes sont très légers.
Even the mildest of symptoms, please come forward and get tested as soon as you possibly can. Delaying for a day can mean that the virus spreads. There's a lot about this virus that we're not certain of. And we don't want anyone to get this. If you get this, it can be very hard to shake. It can be a long-lasting chronic illness rather than a cough or a cold.
Et puis des inquiétudes également de la part de certains habitants à Melbourne alors que la police va utiliser ce week-end des drones pour s'assurer que les restrictions concernant les rassemblements sont bien respectées et ce malgré la finale de l'Australian Football League samedi soir. Le moins qu'on puisse dire, c'est que cette initiative ne plaît pas du tout à Gemma Caffarelle de l'association Liberty Victoria et elle n'est pas opposée au confinement. En revanche, elle désapprouve profondément l'utilisation des drones pour surveiller la population.
If the police normally wanted to check out what was going on in someone's private space, being their backyard or their home, they would normally need to comply with quite stringent laws about whether or not they can enter that space. Our concern is that the use of drones means that there's pretty much no check or balance on that process and the police are just able to assess what's going on in people's private spaces.
Finances publiques, un comité sénatorial a auditionné hier le directeur général de notre antenne SBS qui s'appelle James Taylor. Devant ce comité, il a expliqué avoir réinvesti 48 millions de dollars au cours des 5 dernières années, une somme dégagée grâce à un plan d'économie. Un plan d'économie qui a permis cette année, marquée par la pandémie pourtant, de réduire de 20 millions de dollars supplémentaires le montant des dépenses de l'entreprise. On écoute James Taylor.
Efficiencies through our efficiency program and cuts that we took in response to the COVID-19 crisis to reflect increased costs that we knew we were going to incur around COVID-19, but also to reflect a significant reduction in our commercial revenues as associated with the economic impacts of COVID-19.
Et le directeur général de la chaîne ABC aussi est lui aussi actuellement en discussion avec le Sénat. Pour sa part, le directeur général d'ABC appelle le gouvernement fédéral à prolonger une enveloppe budgétaire grâce à laquelle est financée la collecte des informations et sans laquelle, d'après lui, il pourrait être contraint de supprimer encore plus d'emplois. David Anderson fait également valoir que malgré les 200 suppressions d'emplois au cours de l'année écoulée à ABC, son personnel a parfaitement su répondre aux défis posés par la couverture du coronavirus. Mais si la rédaction devait subir une nouvelle coupe budgétaire, sa mission d'information deviendrait alors beaucoup plus difficile à assurer, c'est ce qu'indique David Anderson.
We will continue to apply for not just the extension, but also that funding to be incorporated into the ABC's base after FY 21-22.
Elle fait partie des rares compagnies aériennes qui assurent encore la desserte de l'Australie malgré la fermeture des frontières. Pourtant, Cathay Pacific est en pleine déroute. La compagnie aérienne basée à Hong Kong, pour éviter la faillite, va licencier plus de 9000 salariés. Elle a déjà perdu plus de 1 milliard d'euros depuis le début de l'année. On fait le point avec Agnieszka Kumor de RFI.
Face à la crise, Cathay Pacific ne fait pas exception. Comme ses concurrents, le fleuron asiatique est contraint de mettre en place un plan de restructuration qui prévoit la suppression de 8500 emplois au total, dont 5900 licenciements secs. L'une de ses filiales, Cathay Dragon, est appelée à disparaître. Ce plan de restructuration a été salué par la bourse de Hong Kong, où l'action de la compagnie s'envolait de près de 6%. Mais la nouvelle est brutale pour les salariés. Certains d'entre eux n'ont même pas pu regagner leur poste de travail. Comme Cathay Pacific, les compagnies du monde entier ont vu leur chiffre d'affaires plonger de 80% alors qu'elles ont toujours des frais fixes importants comme les salaires, le carburant, la maintenance, les taxes d'aéroport et désormais les coûts d'entreposage de leurs avions. Mais avant même la pandémie, Cathay a été victime de la crise politique à Hong Kong, période durant laquelle les manifestations avaient considérablement réduit le nombre de passagers de Chine continentale, un marché crucial.
Un début d'ouverture au Vatican en direction des couples homosexuels, puisque le pape François, dans un nouveau documentaire qui vient d'être projeté au Festival du film de Rome, reconnaît le droit aux couples de même sexe de former une famille. Le pape François s'est déjà par le passé exprimé en faveur de l'union civile. Il reste en revanche opposé au mariage homosexuel. C'est ce qu'il rappelle dans ce nouveau film intitulé Francesco.
Homosexual people have a right to be in a family. They are children of God and have a right to a family. Nobody should be thrown out or made miserable over it. What we have to create is a civil union law. That way, they are legally covered.
Voilà, des extraits des propos tenus par le pape dans ce film qui s'appelle donc Francesco et qui a été réalisé par le metteur en scène russe Evgeny Afinitsky. Alors selon ce dernier, le pape, avec ses déclarations, ne cherche pas à remettre en cause totalement la doctrine de l'Église envers les homosexuels, mais au moins à mettre fin aux discriminations dont ils sont victimes.
He not was discussing the doctrine of the church. He not tried to change the doctrine of the church. He was talking that the people not should be discriminated and the gay community should have the equal rights like everybody else.
L'Iran et la Russie accusés d'interférer dans le processus électoral aux États-Unis. John Ratcliffe, le directeur des renseignements américains, assure que la Russie et l'Iran ont mis la main sur des informations concernant les registres électoraux et donc les électeurs. Il accuse plus spécifiquement l'Iran d'avoir envoyé des fausses informations, mais aussi des messages intimidants par email aux électeurs.
We have already seen Iran sending spoofed emails designed to intimidate voters, incite social unrest, and damage President Trump. Additionally, Iran is distributing other content to include a video that implies that individuals could cast fraudulent ballots, even from overseas. This video and any claims about such allegedly fraudulent ballots are not true.
Voilà, et cette annonce intervient quelques jours après les révélations allant dans le même sens du quotidien Le Washington Post. L'email reçu par des électeurs du Parti démocrate, notamment dans l'État de Floride, prétend être envoyé par le groupe d'extrême droite, les Proud Boys, et il les appelle à voter pour Donald Trump. Pour sa part, le directeur du FBI, Chris Wray, promet d'agir de façon très agressive vis-à-vis de toute forme d'ingérence étrangère.
We are not going to tolerate foreign interference in our elections or any criminal activity that threatens the sanctity of your vote or undermines public confidence in the outcome of the election. When we see indications of foreign interference or federal election crimes, we're going to aggressively investigate and work with our partners to quickly take appropriate action.
Et déjà 4 semaines d'affrontements entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan dans la région du Haut-Karabakh, où les appels au cessez-le-feu n'ont pour l'instant pas été respectés par aucun des belligérants. En parallèle, des tractations diplomatiques se poursuivent. Les prochaines rencontres sont prévues à Washington, mais le président arménien a pour sa part d'ores et déjà fait savoir qu'il exclut toute solution négociée au conflit. On fait le point avec Anissa El-Jabri pour RFI.
Est-ce une réponse aux propos du président azerbaïdjanais il y a 4 jours quand Ilham Aliyev avait qualifié le Haut-Karabakh et l'Arménie tour à tour, je cite, de « chiens fascistes et bêtes sauvages ». En tout cas, le premier ministre arménien s'est adressé sur Facebook à son pays, douchant les espoirs d'une issue aux négociations. La question du Haut-Karabakh, a-t-il dit en ce moment et pour encore longtemps, ne peut avoir de solution diplomatique. Nicole Pachinian, qui sonne la mobilisation, appelle solennel, je cite, à tous les dirigeants des villes, des districts, des villages, des partis politiques, des organisations civiles, des cercles des affaires, d'organiser des unités de volontaires. Un appel aux troupes pour combattre aux côtés des soldats du Haut-Karabakh, près de 4 semaines après le premier, signe peut-être que les pertes sont lourdes sur le front, signe en tout cas que les Arméniens perdent du terrain. En 4 semaines de conflit, les forces azerbaïdjanaises ont conquis des territoires perdus dans les années 90. Elles s'approchent surtout de la route qui lie le Haut-Karabakh à l'Arménie, un axe essentiel pour le transport d'armes et de soldats.
Et pour terminer ce bulletin, on jette un œil à la météo de ce jeudi en Australie. 25 degrés à Perth, où il y a aujourd'hui des nuages. 28 degrés à Adélaïde, où on attend un peu de pluie dans la journée. 18 degrés à Melbourne. 25 degrés à Sydney, où il fait gris. 27 degrés et de la pluie dans la journée à Brisbane. Grand soleil en revanche à Cairns avec 32 degrés et c'est pareil à Darwin où le thermomètre va monter aujourd'hui jusqu'à 33 degrés.
Journal des sports de ce jeudi avec tout d'abord le Giro d'Italia, la 17e étape remportée par l'Australien Ben O'Connor. On l'écoute, il est sur European Broadcasting Union.
Yesterday was so close and to pull it off today in the mountains that I dream of, it's yeah. Maybe it hasn't sunk in yet, but when I crossed the line, I was full gas crying, so it means a lot.
8.5 kilometers to go. Was that a plan to attack there?
No, but I could see everyone was really struggling at the time. There was no real pace between the guys, and everyone was kind of looking at each other. And I felt good again, so I thought, why not? If someone joins me, then we swap, and then I would try and go again. But the aim was just to win today. And I just can't believe I've done it.
La Vuelta en Espagne, deuxième étape hier, remportée par l'Espagnol Enrique Mas. Primož Roglič, le Slovène, reste en vert. Il avait remporté la première étape mardi. On passe au foot, la Ligue des Champions. Après 7 ans d'absence, l'OM revient sur la scène, mais battu par l'Olympiakos 1-0 dans le groupe C. Annie Gasnier de Radio Foot International.
Ils attendaient depuis 7 ans leur retour sur la scène européenne. Retour manqué en dernière minute. Les Marseillais ont perdu ce premier match de groupe en Ligue des Champions. Un but sur passe décisive, 2 de Mathieu Valbuena, l'ancien Marseillais passé du côté de l'Olympiakos et qui a donc fait si mal à l'OM. L'un des meilleurs sur le terrain ce soir, c'était le latéral gauche, Jordan Amavi. Écoutons-le justement, Jordan Amavi évoquer cette fin de match qui est un crève-cœur.
Ça va vite, c'est la Champions League, sans centre but, mais je pense qu'on aurait pu l'éviter. Mais voilà, malheureusement, ce soir, on n'a pas été assez peut-être agressif. On aurait dû être un peu plus agressif. on l'a fait un peu trop tard. Après, on a eu des occasions, on les a pas concrétisées. Et voilà, c'est le football. Il va falloir travailler sur ça, être un peu plus solide et aussi notre niveau de jeu, parce que voilà, c'est la Champions League, c'est un autre niveau encore.
On va écouter André Villas-Boas qui a bien compris que les choses n'étaient pas très bien parties.
Je pense que c'était un match de détail, la première équipe que faisait un but pour ouvrir le porter. Les équipes ont été tous bien défensivement, pas trop de grandes chances pour une et pour l'autre. Oui, dernière minute on les allait presser un peu plus haut et après on a subi cette perte de deuxième ballon qui a donné le but. Mais bon, ça, c'est une question de détail. Normalement, c'est un ballon que tu gagnes et ça c'est fini.
Le tenant du titre, le Bayern de Munich, écrase l'Atlético de Madrid 4-0 dans le groupe A. Le Real Madrid, champion en 2016, 2017 et 2018, battu par le Shakhtar Donetsk 3-2 à domicile. Les Merengues étaient menés 3-0 par les Ukrainiens à la pause. Mardi, Rennes a joué contre Krasnodar, le club russe dans le groupe E. Ils ont fait match nul, un but partout. Antoine Grenier, Radio France Internationale.
La frappe parfaitement placée de Christian Ramirez, le latéral de Krasnodar, l'a laissé presque sans réaction. À l'heure de jeu, Alfred Gomis a encaissé le premier but de son aventure rennaise, premier but concédé aussi pour sa première en Ligue des Champions. Cruel pour le natif de Ziguinchor, auteur à la 74e de l'arrêt du match, une parade réflexe pour éviter un but contre son camp de Da Silva. De quoi valoir au Sénégalais les félicitations de son entraîneur Julien Stéphan.
Il a abordé ça avec énormément de sérénité, il a aussi de expérience parce qu'il a déjà vécu et connu un autre championnat. Même s'il y avait assez peu de séances collectives avec le groupe, voilà, je le trouvais très très serein, très 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 calme. Pas de reproche à se faire sur le but encaissé, qui est un but magnifique. Pour le reste, il a été rassurant et convaincant.
Arrivé blessé de Dijon il y a 3 semaines pour remplacer Edouard Mendy, parti à Chelsea, Gomis a su rassurer sur sa capacité à s'adapter au niveau de la Ligue des Champions. Reste à faire ses preuves sur la durée et en championnat, et notamment dès vendredi, contre Angers.
Et dans le groupe H, Manchester United a battu le Paris Saint-Germain 2-1. Précision de Cédric de Oliveira pour RFI.
Décidément, les Red Devils ne réussissent pas aux Parisiens ces dernières saisons. Ce sont eux qui avaient déjà éliminé le PSG il y a 2 ans en 8e de finale. Ils l'ont donc emporté 2-1 grâce à un pénalty de Bruno Fernandes et un but de Marcus Rashford. Paris avait égalisé grâce à Anthony Martial contre son camp. Défaite logique tant le finaliste de la dernière édition n'a pas montré grand-chose. Le défenseur et capitaine Presnel Kimpembe était lucide après la rencontre.
Il n'y a pas d'explication, on a tout simplement pas été bon ce soir. On était pas dans les duels, on était en retard dans les retours défensifs et voilà, ça se paye cash dans un tel niveau comme ça et c'est dommage de perdre des points à la maison comme ça et voilà, on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. Va falloir relever la tête pour les prochaines échéances.
Il y aura la Ligue 1 d'abord ce week-end face à Dijon, mais le prochain rendez-vous européen pour le PSG, ce sera la semaine prochaine à Istanbul face à Başakşehir. Les Turcs battus par Leipzig 2-0. Le club allemand a donc pris la tête du groupe H.
32 clubs de cette Ligue des Champions ont retenu 63 joueurs africains. Écoutez le reportage d'Alejandro Valente pour RFI.
Sur les 63, près de la moitié, 29, disputeront leur première Ligue des Champions. Pour ces débutants, le modèle sera sans doute les Camerounais Joël Matip de Liverpool, qui participent à sa 8e édition. Parmi les 63 engagés, 12 sont Sénégalais, de loin les plus nombreux parmi les 17 nationalités africaines qui prendront part à la fête. Le Maroc, avec 9 joueurs, est aussi bien représenté. Côté club, la répartition est bien inégale. Le club Bruges, avec 8 joueurs, est bien le plus africain des clubs engagés, devant le FC Porto, l'Olympiakos et le Red Bull Salzbourg, avec 6 joueurs du continent chacun. Côté français, Rennes compte le plus gros contingent, avec 4 joueurs inscrits, nettement plus que le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille, qui n'en compte qu'un. Mais il y a aussi 10 clubs sans un seul joueur africain. Encore un mot, les plus âgés des joueurs africains à Lille, c'est les Sénégalais Dembaba du Başakşehir Istanbul, 35 ans, et les plus jeunes s'appellent Ibrahima Breze Fofana, guinéen des 18 ans, engagé avec les clubs Bruges.
Les Pyramides FC d'Égypte joueront contre la sportive Renaissance de Berkane en finale de la Coupe de la Confédération. ce dimanche 25 octobre. On passe à l'AFL, le footy australien, la grande finale qui aura lieu samedi soir entre Richmond et Geelong. Et la NRL, on parle de rugby, la finale dimanche prochain entre Melbourne Storm et les Penrith Panthers. Voilà pour le journal des sports de ce jeudi. Vous écoutez Radio SBS, le programme en français.
Et on vient d'écouter un extrait de la chanson Joséphine du groupe Volo, composé de deux frères, un groupe français. C'est maintenant l'heure de se tourner vers l'Australie et plus particulièrement de s'intéresser à son actualité économique. On fait le point sur ce qui a marqué les actualités ces derniers jours avec Nicolas Perpich et Jean-Noël Ducasse.
Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez. Pour s'inscrire ou télécharger, www.sbs.com.au/french.
Eh bien, comme chaque semaine, on retrouve Nicolas Perpich pour l'analyse de l'économie australienne. Bonjour à vous, Nicolas.
Bonjour, Jean-Noël.
Le nombre d'emplois pour les jeunes de moins de 20 ans augmente, mais pas pour les autres.
Oui, c'est étrange. Ça, c'est des statistiques qui sortent du bureau australien des statistiques. Mais c'est assez étonnant parce que on avait entendu la semaine dernière seulement comment, en fait, pour les postes d'emploi d'entrée où on n'a pas besoin de beaucoup de compétences ou d'expérience, il y avait beaucoup de gens qui se présentaient. C'était extrêmement compétitif. Mais peut-être c'est que en fait la plupart de ces nouveaux jobs sont ce genre de postes et il y en a moins pour des gens plus âgés. Et en fait voilà ce que le bureau des statistiques a trouvé, c'est que en fait le nombre de jobs pour les gens en dessous de 20 ans était monté par 6,1% depuis mi-mars. Quand les lockdowns ont commencé autour du pays. Selon les économistes, ça montre que les employeurs, ils préfèrent employer des jeunes gens pendant cette récession en ce moment-là, plus que des gens plus âgés, où on voit qu'il y a eu beaucoup moins d'emplois pour les gens entre 20 et 29 ans, 30 et 39 ans, 40 et 49 ans, et les gens de plus de 50 ans, encore moins d'emplois que d'habitude en fait. Et en plus de tout ça, il y a le gouvernement fédéral qui dans son budget récemment a annoncé 4 milliards de dollars pour encourager les employeurs à employer des jeunes gens. Par exemple, ils vont leur donner des crédits s'ils emploient une jeune personne qui est sur Job Seeker ou de Youth Allowance. Ils vont leur donner 200 dollars pour aider à payer les salaires s'ils sont âgés entre 16 et 29 ans et 100 dollars s'ils sont âgés entre 30 et 35 ans. C'est intéressant parce que le gouvernement pense que ça va créer à peu près 450 000 positions ou postes selon la trésorerie du gouvernement australien. Comment on va faire pour les gens plus âgés qui, maintenant, pour la première fois, ils ont perdu leur job et maintenant, ça va être très difficile pour eux de retrouver quelque chose d'autre si les employeurs, ils préfèrent les gens encore plus que d'habitude. Il y a des gens qui sont dans leur quarantaine ou cinquantaine qui maintenant se retrouvent sans job pas énormément de chance d'en retrouver un, même si, en fait, ils ont des très bonnes compétences. Et récemment, j'ai discuté avec un homme dans cette situation qui avait à peu près 55 ans. Il avait travaillé toute sa vie, conducteur de taxi. Il travaillait comme soignant aussi. Mais là, il dit qu'il y a la discrimination contre les gens âgés, les employeurs qui ne s'intéressent pas du tout à des gens comme lui.
La guerre commerciale entre l'Australie et la Chine continue et l'industrie du coton en Australie pourrait être la dernière cible de la Chine.
Voilà, donc ça dure assez longtemps. On a déjà vu ça avec plusieurs produits australiens. Et là, on voit que maintenant, c'est peut-être le coton où en Chine, les minoteries, les moulins auraient été découragés d'acheter du coton australien. Et c'est inquiétant parce que là, ils pensent qu'il pourrait y avoir des tarifs de 40% qui seraient imposés sur le coton australien. Et c'est une industrie qui vaut à peu près 800 millions de dollars chaque année d'exportation vers la Chine. Mais bon, s'il y a 40% de tarifs, ça va devenir impossible. Ça va être hors de prix et beaucoup trop. Mais c'est le gouvernement australien qui détermine combien de coton peut être importé dans le pays de l'Australie et d'autres pays. Donc, pour l'industrie là-bas en Chine, qui veut fabriquer des habits, etc., et c'est pas vraiment déterminé par eux. Donc, c'est très délicat. Il y a le ministre responsable Simon Birmingham qui a confirmé que la Chine va peut-être annoncer formellement ce changement et que là il est en train de chercher d'une façon urgente plus d'informations de la part de la Chine. Il a dit que quand même il a signalé que la Chine ne doit pas discriminer contre les producteurs australiens, mais il y a aussi le ministre de l'Agriculture David Littleproud qui dit que c'est très difficile d'avoir d'informations en ce moment de la Chine. C'est la même chose pour des organisations comme Cotton Australia et Cotton Shippers Association. Ils disent qu'ils essayent de comprendre un peu mieux ce qui se passe là, mais qu'ils ont du mal à comprendre la situation et ce qui se passe exactement. Donc, beaucoup d'incertitudes pour les gens, les fermiers et d'autres qui travaillent dans cette industrie quand on sait que 65% de tout le coton australien va en Chine, ça pourrait être un gros problème pour eux, malheureusement.
RM Williams, la compagnie très connue pour des bottes surtout, a été rachetée par un Australien.
Oui, voilà, donc rachetée par Andrew Twiggy Forrest, qui est plus connu pour ses mines de minerai de fer en Australie-Occidentale, qui lui ont rendu la deuxième personne la plus riche de l'Australie. Donc, il a acheté RM Williams, voilà, qui est très connu pour ses bottes, qui existe en Australie depuis très très longtemps maintenant, qui avait été créé en Australie du Sud il y a 88 ans par le bushman Reginald Murray Williams. Voilà donc Andrew Forrest qui rachète la compagnie pour 190 millions de dollars. Ça avait été acheté en 2013 par le groupe LVMH qui avait Louis Vuitton et d'autres marques comme ça. Puis plus tard, LVMH, ça avait été acheté par un groupe qui s'appelle L. Catterton. Et donc, ils ont vendu maintenant à Andrew Forrest, ou plutôt à la compagnie de Andrew Forrest et sa femme, la compagnie qui s'appelle Tattarang Investments. Et le PDG de Tattarang, John Harton, il a confirmé qu'en fait, ça fait presque un an que Tattarang vise RM Williams et cherche à peut-être l'acheter. Et lui-même, il était allé à Adélaïde l'année dernière pour regarder ce qui se passait dans la fabrication des bottes et des habits qui sont faits par RM Williams et vendus dans 63 magasins autour d'Australie, ainsi qu'un magasin à New York et un autre à Londres. Et donc là, Tattarang qui a confirmé qu'ils ne vont pas fermer des magasins et en même temps, ils vont essayer de tout fabriquer en Australie. Là, il y a presque tout qui est déjà fabriqué en Australie, sauf 1 ou 2%, et ils ont dit qu'ils vont regarder si peut-être ils peuvent fabriquer les derniers 1 ou 2% ici en Australie aussi.
Voilà, merci à vous Nicolas, et à très bientôt.
Merci beaucoup, à très bientôt.
Les programmes de SBS sont disponibles en podcast et vous pouvez les écouter quand vous voulez. Pour s'inscrire ou télécharger, www.sbs.com.au/french.
C'est confirmé, un bras plus fort que l'autre. Pourquoi ? Je crois le savoir.
Et c'était Francis Cabrel qui fait donc son retour avec ce morceau intitulé « Chanson pour Jacques ». Vous êtes sur SBS, le programme en français. Il est 13h et quasiment 39 minutes. Tout de suite, on va faire une petite pause et puis juste après, on retrouve Philippe Osterman pour nous parler des dernières activités à l'Alliance française de Sydney. Alors, comme quasiment tous les mois, on se tourne aujourd'hui vers l'Alliance française de Sydney et son directeur, Philippe Osterman. Bonjour.
Bonjour, bonjour à SBS, merci de me recevoir.
Ben, je vous en prie. Alors, il y a un certain nombre d'événements virtuels qui sont prévus ce mois-ci, notamment deux conférences via Zoom sur l'exposition Van Gogh Alive.
Tout à fait. On a beaucoup de chance à Sydney parce que on a donc cette exposition Van Gogh Alive qui est ouverte et qui est très très belle. C'est pas des tableaux de Van Gogh, mais ce sont des tableaux projetés et avec toute une animation en son et en son et lumière qui permettent de vivre et de rentrer dans les tableaux.
Oui. Alors ils appellent ça effectivement une expo multisensorielle. Et j'ai eu la chance de me rendre une fois à l'atelier des Lumières à Paris, qui a ouvert en 2018 pour voir la toute première expo qui était consacrée à Gustav Klimt. Et c'est assez différent de simplement ce qu'on peut voir dans certaines villes ou à Sydney tous les hivers avec Vivid. C'est différent que de projeter des œuvres ou des images sur des monuments.
Oui, c'est vraiment une expérience très intime de la peinture qui est projetée dans des dimensions immenses, avec des détails qui ressortent très grandes, des animations autour de la peinture, tout ça dans un grand respect bien évidemment de l'œuvre de l'artiste, mais c'est vraiment une expérience complète. Alors bien évidemment, on peut préférer voir l'autoportrait de Van Gogh à New York ou dans les musées parisiens, mais c'est pas du tout la même chose. Ça permet de voir des détails et de sentir l'œuvre d'une façon vraiment différente et c'est très 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 bien fait. Et en plus, c'est vraiment accessible et adaptable à toute la famille en fait, parce que ça a un côté ludique aussi.
Alors, pour préciser sur l'expo Van Gogh Live, elle est en cours actuellement à Sydney, ça se passe au Sydney Royal Hall of Industries. Et donc vous, à l'Alliance française, vous organisez deux conférences autour de cette exposition et une avec le créateur de l'exposition, Bruce Peterson.
Tout à fait. On a la chance donc d'avoir contacté Bruce Peterson assez rapidement dès qu'on a su qu'il y avait l'exposition. Et donc il y a une première conférence qui est le 22 octobre où lui va nous expliquer en fait quelle est cette nouvelle façon de mettre en avant des artistes et de faire pénétrer ou de faire connaître l'œuvre d'artiste de cette façon différente. Donc ce type d'exposition permet de faire vivre l'œuvre et d'être une première introduction à l'œuvre d'un artiste avec et encore une fois pour toute la famille. Donc ça, Bruce Peterson va nous expliquer un peu comment ils conçoivent ce type d'exposition et quels sont leurs projets pour la suite, parce qu'il y a bien évidemment des peintres, mais il y a aussi d'autres types d'expos autour de la science, autour des animaux, qui peuvent être faits de cette façon-là. Et le 23 octobre, on a Marie Chrétien, donc, qui est une des membres du board de l'Alliance, mais qui est surtout une spécialiste de l'art et plus précisément des impressionnistes, qui fera une conférence, là, pour le coup, autour de la peinture de Van Gogh et de l'influence qu'a eu Van Gogh sur toute la peinture, à la fois impressionniste, mais aussi la peinture moderne et contemporaine.
Il y a aussi une autre conférence qui est prévue au cours du mois. C'est sur le café, plus précisément l'histoire du café et de la France.
Tout à fait. Alors, c'est fait par un historien, Darren Smith, qui est notamment à Sydney Uni, et en fait, qui s'est intéressé à, d'abord à l'Empire ottoman, et puis de fil en aiguille, en fait, la façon dont le café de l'Empire ottoman est arrivé en France au XVIIe siècle, si je ne m'abuse, et comment le café a conquis la France, comment la France ensuite s'est mise tout naturellement, bon, a déjà été la plus grande consommatrice à cette époque-là de café, et puis comment le café du coup a été planté dans les colonies françaises de l'époque, et puis dans les Antilles, en Guadeloupe, Martinique, toutes les régions, et comment le café en fait a pris en France, s'est développé, et comment la cour de l'époque a utilisé aussi le café comme vecteur culturel.
Il y a une dernière chose dont je voulais parler. On le sait, chaque année en France, à la période de la rentrée, c'est aussi la rentrée littéraire. On a des centaines et des centaines de bouquins qui sortent au mois de septembre, fin août, etc. Et donc vous accompagnez un petit peu cet événement en présentant chaque semaine une série d'ouvrages sortis pour cette rentrée.
Oui, Cécile Reyes, qui est notre médiathécaire et qui a eu vraiment le nez creux, en fait, est tombée amoureuse d'un roman qui s'appelle La fille du père il y a 2 mois de cela, qui était vraiment un des romans de la rentrée, et comme vous dites, je crois qu'il y a 600 romans qui sont sortis, qui est un roman de Laure Courrèges, et donc elle a contacté l'auteur qui se prête depuis 3 semaines à des courtes vidéos où elle parle à la fois de son livre, de sa sélection au prix Médicis, parce qu'en fait nous venons d'apprendre donc qu'elle est dans la liste des Médicis, qui prouve que vraiment Cécile Reyes a très très bon goût, et puis aussi de ses coups de cœur de la rentrée littéraire. La dernière vidéo qu'elle a faite, c'est sur le yoga d'Emmanuel Carrère, dont on parle énormément.
Oui, je l'attends également. J'adore Emmanuel Carrère et j'essayais de me le procurer aussi. Ouais.
Alors, c'est très simple pour se le procurer. Il suffit de prendre son membership à l'Alliance française de ciné, donc pour un prix qui est de $80. Et cela vous donne accès notamment, alors il y a plein de choses, mais ça vous donne accès à la CultureTech. Et la CultureTech, c'est un site internet donc réservé aux membres où vous avez accès en ligne à pas tous, mais quasiment tous les romans de la rentrée littéraire, la plupart des journaux et des magazines français en temps réel. Donc vous pouvez lire Le Monde d'aujourd'hui, par exemple, sur CultureTech. Donc il y a des magazines, des livres, des bandes dessinées, des émissions de radio, des podcasts, et des documents audiovisuels et des disques aussi. Et des livres pour enfants. Donc ça s'appelle CultureTech et c'est accessible quand vous êtes membre de l'Alliance française.
Merci beaucoup Philippe Ostermann. À très bientôt.
À très bientôt. Merci beaucoup de m'avoir reçu et surtout n'hésitez pas à aller sur le site de l'Alliance française si vous avez besoin de renseignements complémentaires. Il y a tout et il est mis à jour tous les jours.
Oui, effectivement, voilà. Merci de le préciser. Tous les détails des événements dont on a parlé sont tous sur le site de l'Alliance française de Sydney. Voilà, vous pouvez y retourner si vous voulez suivre l'un de ces événements. Merci encore, bonne fin de journée.
Merci à vous, à très bientôt.
Et vous avez peut-être reconnu le chanteur martiniquais Dédé Saint-Prix et ce morceau qui s'appelle « Où qu'est trouvé ?». Trouver les dernières pépites de la chanson française, c'est justement l'objectif de What the France. On retrouve tout de suite Alex Pinte et Jean-Noël Ducasse.
Vous êtes avec Radio SBS en français.
Le plaisir d'avoir Alex Pinte de What the France en Australie. Bonjour Alex et bienvenue.
Bonjour Jean-Noël.
Et il se passe beaucoup de choses sur la scène musicale et on va parler des sorties de la semaine avec vous.
Et oui, ça y est, le mois d'octobre, c'est toujours plein de sorties avant Noël. Alors j'ai fait un choix, j'ai choisi cinq artistes à vous présenter cette semaine. Nous en parlions la semaine dernière, mais ça y est, il est là, le nouveau Woodkid S16. C'est un album de 11 titres qui permet à l'artiste d'évoquer des sujets profonds. Dans S16, Woodkid questionne la notion d'échelle, les forces entre l'humain et l'industriel, et la responsabilité individuelle de l'état de notre monde. Le nom S16, donc, faisant référence au symbole chimique et au numéro atomique du soufre, il est essentiel pour tous les êtres vivants, bien qu'ils soient susceptibles de s'enflammer. C'est un album et des visuels qui sont vraiment incroyables. Et l'artiste était d'ailleurs l'invité de Jimmy Kimmel vendredi dernier pour célébrer la sortie de l'album. Et vous pouvez retrouver la vidéo de sa performance sur YouTube et les réseaux sociaux. Alors, on a toujours un jeu concours aussi pour gagner 2,45 tours de Woodkid. Si vous allez sur le site whatdefrance.org, sur l'article de Woodkid, vous trouverez le formulaire pour y répondre. Donc, 2,45 tours des titres Goliath. Et du coup, j'ai sélectionné un extrait du morceau Horizons in the Battlegrounds que je vous laisse découvrir.
The madness when every voice says I'm worthless. I thought I would find the force from fighting, but if I win alone, I'm losing.
Alors, le deuxième artiste, c'est une légende de la musique française, Francis Cabrel, 14e album pour l'artiste. 5 ans après son dernier album, L'In Extremis, il revient avec L'Aube Revenant, un album 13 titres absolument formidable. 43 ans de carrière, c'est pas commun. Et j'ai choisi de vous présenter un extrait de la chanson pour Jacques, aussi fou que cela puisse paraître. Donc cette chanson est un hommage à Jacques Dutronc, et aussi fou que cela puisse paraître, les deux hommes ne se sont rencontrés que l'espace de 2 minutes au cours de leur carrière. Alors on imagine que des monuments de la musique française comme ça se côtoient, et finalement on se rencontre pas toujours. Et donc, je trouve que c'était intéressant de le souligner.
Si j'étais un guerrier et le monde à sauver, je commencerais par elle. Ça, je crois savoir, je crois le savoir. Je crois savoir. Les soucis, les problèmes, n'en jetez plus, la cour est pleine. On n'a rien à déclarer, juste envie de se marrer.
En numéro 3, nous parlons de l'inspecteur Clouseau. Alors nous en avions parlé au mois d'août. L'inspecteur Clouseau, c'est ce duo atypique qui alterne la vie en tournée, hein, plus de 1000 concerts dans 52 pays, et la vie à la campagne dans leur ferme bio Lucas en Gascogne. Le duo vient de sortir un album live qui s'appelle The Organic Farmer's Season, et on va écouter un extrait de The Run.
Coming down, which way do we go? Take it to the end, the dark time and the light sound. Goodbye to my friend.
Et nous continuons avec Luz and the Yakuza. Alors l'artiste de seulement 23 ans sort son premier album, Gore. Luz, c'est la nouvelle pépite de Sony Music. De son vrai nom, Marie Pierra Kakoma, Luz est née d'un père congolais et d'une mère rwandaise. Est maintenant installée en Belgique après avoir fui les conflits ethniques que l'on connaît. Tout ça, ça a forgé sa personnalité, ça influence beaucoup sa musique et ses prises de position. Et comme je le disais, Luz, elle est signée chez Sony Music France. C'est donc une artiste que l'on soutient aussi avec What the France. Alors l'album était attendu, hein, après l'énorme succès du premier single, Dilemme, dont on écoute un extrait tout de suite.
Si je rate, je recommence. Quand je suis triste, je chante. Ne jamais tout donner de moi. Dans ce monde, c'est le diable qui est roi. Elles me disent que j'ai la poisse. Blague à part de velours, ça part.
Seul, seul, seul.
Si je pouvais, je vivrais seul, loin des problèmes et des dilemmes. Na, 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 na. Si je pouvais.
pouvais-je vivre seul, loin de mes chaînes et des gens que j'aime. Non, 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 non. Si je pouvais-je vivre seul, loin des problèmes et des dilemmes.
Et on termine avec Gaume, un artiste indépendant, parce que c'est aussi important de mettre en avant les projets qui sont un peu moins sous les feux de projecteur. Gaume a sorti cet album mi-septembre. C'est un artiste nantais et je vous laisse découvrir le titre « Timeless Anger ».
Finalement, il y a aussi ce concours qui prend fin le 31 octobre, Alex.
Oui, et nous avons aussi donc le concours avec Woodkid, je le disais tout à l'heure, et un deuxième concours pour gagner l'album de Julien Doré, qui est aussi un de nos artistes que nous mettons en avant ce mois-ci, le nouvel album Aimé, qui est un album formidable aussi. Donc, pour jouer et participer, vous pouvez aller sur la page whatdefrance.org et vous trouverez les articles qui parlent des artistes de leur album. Et un petit formulaire à la fin pour pouvoir participer.
Merci Alex, à bientôt.
Merci Jean-Noël, à bientôt.
Kulukutu kutu kulukutu kutu e mama ntsunga kudia kulumvwemvwe e mama ntsunga kudia viritoko chitoko landie ambenge viritoko.
Et SBS en français, c'est fini pour aujourd'hui. On se quitte cet après-midi avec les mamans du Congo et ce morceau baptisé Bordel de rap. Nous, on se retrouve samedi à 13h précise pour notre prochaine émission en direct sur Radio SBS One. On est aussi disponible en différé. Vous pouvez écouter toutes nos émissions et toutes nos interviews en podcast sur notre site, bien sûr, SBS French, sur l'appli SBS Radio. Et vous pouvez aussi vous abonner à notre chaîne sur votre plateforme préférée de streaming audio. Passez une excellente journée et à très bientôt.
Aimez, partagez, commentez. Suivez-nous sur facebook.com/sbsfrench.